France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse à une hormone star sur les réseaux sociaux, le cortisol, également connu sous le nom d'hormone du stress. Partout sur les réseaux sociaux, le cortisol est devenu l'ennemi à abattre. Des influenceurs bien-être, sans aucune expertise, vous, hégémonie, le cortisol prétendu responsable du stress chronique, de la prise de poids, des migraines, de l'acné ou encore de troubles digestifs. Comme l'affirme l'une de nos invitées, Marie-Pierre Moisan, le cortisol est victime de surinterprétation. Ce matin, des endocrinologues vous aident à distinguer le vrai du faux, preuve scientifique à l'appui. Et comme le cortisol est tout de même un marqueur de stress chronique, nous vous donnerons des conseils pour le réguler, ce stress, avec l'une des meilleures spécialistes médicales de la méditation de pleine conscience, la professeure Corinne Isnard-Bagnis. Nos invités attendent vos questions sur le cortisol au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour docteur Marie-Pierre Moisan.
Bonjour Ali.
Vous êtes neuro-endocrinologue, directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Vos recherches portent principalement sur la régulation du cortisol, ses actions dans le cerveau et la génétique des réponses de stress. Et vous publiez chez Vuibert un livre essentiel quand on s'intéresse sérieusement au cortisol. Mais est-ce vraiment le cortisol où vous promettez la vérité, rien que la vérité, sur cette hormone? Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris, professeur de médecine à l'université Paris-Cité, et vous animez et coordonnez la chaîne YouTube PUMS pour une meilleure santé, une chaîne cofinancée par l'université et la PHP. Bonjour professeur Corinne Isnard-Bagnis.
Bonjour Ali,
vous
bonjour
êtes néphrologue, professeur de médecine à la faculté de santé Sorbonne Université. Vous êtes également l'une des meilleures spécialistes de la méditation de pleine conscience. Vous aviez publié à ce sujet un que sais-je, basé sur les dernières recherches scientifiques, et on va avec vous tout à l'heure, réguler notre stress chronique grâce à la méditation. Alors, docteur Marie-Pierre Moisan, récemment, je suis tombé sur des vidéos d'influenceurs bien-être qui proposaient de réguler son taux de cortisol avec la promesse de baisser son stress, de réguler sa prise de poids, de traiter les troubles digestifs, les maux de tête, la fatigue chronique, l'acné. Bref, comme le dit la professeure Martine Duclos dans la préface de votre livre, le cortisol reste malheureusement le vilain petit canard parmi toutes les hormones connues du grand public. Ça apparaît, le cortisol, comme une mauvaise hormone, le coupable de tous les maux. Et c'est ce qui a motivé l'écriture de votre livre, docteur Moisan.
Alors tout à fait, ce livre c'est une réponse scientifique à tout ce qui peut être déversé sur les réseaux sociaux, mais aussi les magazines généralistes faisant donc du cortisol l'hormone diabolique qui serait responsable d'un tas de choses donc dans le corps. Or c'est plutôt la conséquence que la cause, et surtout c'est une hormone indispensable à la vie.
On va le voir tout au long de cette émission. Est-ce qui a également motivé votre livre, c'est le fait que certains influenceurs, certains naturopathes, certains diététiciens conseillent des compléments alimentaires, des plantes, des recettes de cuisine pour contrôler son niveau de cortisol, des coachs qui proposent également, on l'a vu sur les réseaux, des cures ou des programmes conçus pour maintenir un taux de cortisol optimal. Bref, le cortisol génère un véritable écosystème commercial, un véritable business.
Tout à fait. Alors, en fait, le stress a été longtemps l'objet du business. Et là, je pense, pour apporter un peu de renouveau, on a mis la focale sur le cortisol, qui est l'hormone, effectivement, qui répond au stress de façon plus flagrante. Mais c'est simplement du marketing pour ensuite vendre des produits pour le réguler. Donc, on fait l'amalgame, on se stresse et cortisol, qui déjà n'est pas tout à fait correct.
Professeur Ancel.
Oui, c'est super convaincant, en fait, quand vous regardez les réseaux sociaux. Et vous savez comment ça fonctionne maintenant? En fait, vous utilisez l'intelligence artificielle qui vous fait un super schéma du métabolisme, de la biochimie, de la biologie. Vous avez donc plein de noms savants. Et puis, vous dites, bah tiens, ouais, c'est vrai, ça intervient dans le stockage des graisses. Bah tiens, ça intervient dans le stress, ça intervient dans la peau. Dans certains cas, quand il y a trop de cortisol, la peau devient fragile. Et donc, vous en déduisez, eh ben voilà, si on régule le taux de cortisol, on va améliorer tout ça. Et je voudrais dire que ça, c'est vraiment l'erreur méthodologique que l'on a en général aujourd'hui en médecine. C'est-à-dire, vous mettez en place des beaux schémas, et l'IA est extraordinaire pour ça, et puis vous faites des extrapolations, et donc à la fin, soit pour vous faire mousser, soit pour faire du business, vous dites, bah, j'ai une solution pour vous, et j'ai lu récemment le livre « Détox ». Cortisol, hein, détox, cortisol, comment détoxifier votre corps en agissant sur votre cortisol.
Docteur Moison.
Oui, il y a aussi reset cortisol, il y a tout un vocabulaire qui a été développé à ce niveau-là. Et donc effectivement, c'est du business avec des discours très formatés. Vous voyez que les influenceurs utilisent exactement le même discours, donc ce qui prouve bien que c'est quelque chose qui est préparé à l'avance. Et diffusé dans un but précis qui est évidemment de vendre des produits ou des cures ou éventuellement des livres.
Professeur Istanbulis.
Oui, je trouve ça super intéressant de revenir sur le stress et justement tout ce qui se passe en réaction au stress, parce qu'on en a quand même besoin. Mm-hmm. Il y a du bon stress, ça nous permet d'avoir, ça permet à notre corps de se préparer à agir. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis deuxièmement, c'est vrai qu'on a toujours besoin de mettre la focale sur un candidat sur lequel on va pouvoir articuler des stratégies d'intervention. Mais c'est vraiment vu avec le petit bout de la lorgnette, comme disait Boris.
Alors qu'est-ce que le cortisol, que l'on présente donc le plus souvent comme l'hormone du stress? C'est une hormone naturellement présente dans notre corps. Je rappelle qu'une hormone, c'est une substance chimique dotée d'une action biologique et qui est fabriquée, sécrétée par une glande ou un organe dit endocrinien. Qu'est-ce que le cortisol, docteur Moison?
Oui, alors le cortisol, comme vous l'avez dit, c'est une substance chimique qui va délivrer un message biologique et qui a la particularité donc de circuler dans le sang pour aller d'un endroit du corps à l'autre. Donc en ce qui concerne le cortisol, il est sécrété par les glandes surrénales. Ce sont des toutes petites glandes qui sont apposées au-dessus des reins. Et il n'est pas stocké dans ses glandes, il va être synthétisé à la demande suite à une stimulation par d'autres hormones qui, elles, viennent du cerveau.
Le cerveau, c'est donc le grand chef d'orchestre du cortisol. C'est lui qui détecte le besoin de produire le cortisol en fonction de différents stimuli?
Tout à fait. C'est toujours le cerveau, la tour de contrôle. C'est le cerveau qui décide de tout.
Boris Ancel.
Oui, et pour faire simple, parce que je pense que nos auditeurs ont envie de comprendre un peu à quoi il sert, et je pense qu'on va revenir, mais c'est une hormone de stress. C'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est pas ce qui va provoquer le stress et qui fait qu'on est malade. C'est une hormone qui est nécessaire pour vivre. Quand vous êtes face à, imaginons, une agression, que ce soit une infection, que ce soit une peur de quelque chose, bon, il faut que vous puissiez mobiliser de l'énergie. Et donc le cortisol va être une de ces hormones de stress. Alors, évidemment, ça ne résume pas tout l'effet du cortisol, mais quand on parle d'hormones de stress, c'est bien pour dire, voilà, c'est pas l'hormone qui va faire que vous êtes stressé, c'est l'hormone qui va vous permettre de répondre à une agression et donc qui va permettre à votre corps de survivre dans une situation difficile.
Alors, docteur Moison, le taux de cortisol varie selon les moments de la journée. Il est maximal, ce taux, au réveil, et il décline progressivement au cours de la journée?
Tout à fait. Donc, c'est une hormone qu'on dit circadienne, c'est-à-dire qu'elle a une oscillation, comme vous l'avez dit, avec des taux élevés en début de journée qui diminuent pour remonter donc le lendemain matin. Donc, des cycles de 24 heures qui sont liés, en fait, à la rotation de la Terre sur elle-même, sur 24 heures. Et donc, moi, je parle plutôt d'hormones d'adaptation qu'hormones du stress. Je trouve que c'est déjà plus positif et ça répond plus à ses fonctions. C'est une hormone donc, qui va s'adapter à tous les changements de l'environnement, et les cycles jour-nuit en font partie, puisque, évidemment, on a des fonctions, des actions différentes entre le jour et la nuit.
Et ce n'est pas pour rien que le taux de cortisol est le plus élevé le matin.
Voilà, puisqu'il est là pour nous préparer à affronter la journée. Donc, il va agir d'abord sur l'éveil, sur la vigilance. Il va agir ensuite, par exemple, sur l'appétit, sur la recherche de nourriture pour refaire les stocks d'énergie. Et puis, il agit aussi sur la mémoire, l'humeur dont on a besoin quand on interagit avec son environnement et avec les autres. Et il diminue en fin de journée où là, on n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Là, pour laisser la place au sommeil.
Et là, c'est une autre hormone qui prend le relais, c'est la mélatonine.
Tout à fait. Ouais.
Une chose très importante, docteur Moisan, c'est que le cortisol est sensible au moindre changement de l'environnement, hein, que cet environnement soit intérieur ou extérieur au corps.
Oui, il met quand même quelques minutes par rapport à l'adrénaline qui est une hormone qui, elle, en quelques secondes, va voir sa concentration monter très vite. Donc le cortisol met quelques minutes pas, plutôt que quelques secondes, mais effectivement va bouger très vite, ce qui rend d'ailleurs son dosage assez difficile puisqu'il faut être dans des conditions très très contrôlées pour bien le mesurer.
Est-il d'ailleurs utile, professeur Ansel, de doser son taux de cortisol, de demander à son médecin un bilan sanguin pour mesurer son taux de cortisol?
Il n'y a aucun intérêt à doser le cortisol pour dépister des maladies ou dépister un problème de santé, sauf si on a des points d'appel. Ce qu'on appelle un point d'appel, ça veut dire des symptômes. Donc on a des situations dans lesquelles il est médicalement recommandé de faire un dosage du cortisol, mais même là, ce n'est pas n'importe quel dosage. C'est pas doser le cortisol une fois. Il y a des tests que les endocrinologues ou les médecins connaissent en général, les médecins généralistes également, qui permettent de détecter des maladies liées au cortisol. Soit l'hypercorticisme, c'est-à-dire l'excès de fabrication de cortisol, soit le déficit de fabrication de cortisol. Parce que dans les deux cas, c'est une pathologie qui peut entraîner des symptômes et qui peut même nous empêcher de vivre correctement. En dehors de ces situations-là, non, aucun intérêt à doser le cortisol pour savoir comment va sa santé et pour mettre en place des traitements naturels pour aller mieux.
Docteur Moisan ?
Oui, je suis complètement d'accord et il faut vraiment faire attention aux arnaques sur Internet qui proposent des kits pour mesurer le cortisol. Ces kits, quelle est leur validité, on ne sait pas
quelle
trop.
Quelle est leur utilité?
Et de toute façon, voilà, c'est déjà tellement difficile de mesurer le cortisol dans des très bonnes conditions qu'il faut le faire dans un cadre hospitalier. Moi, ce que je dis dans le livre aussi, c'est que même dans les laboratoires d'analyse privés, on ne le fait pas parce que c'est compliqué de faire des dosages qui soient valides, qui soient robustes, qui soient comparables avec d'autres. Donc c'est plutôt par des techniques de spectrométrie de masse qu'il faut faire ça, donc dans des laboratoires hospitaliers.
Et comme on l'a dit, un cortisol fluctue beaucoup au cours de la journée. Il n'y a pas une norme de cortisol de laquelle vous êtes malade, en dessous de laquelle vous êtes en bonne santé. Et même les tests que les médecins prescrivent ne sont pas toujours faciles à interpréter.
Et nous accueillons Karine. Bonjour Karine.
Oui, bonjour.
Bienvenue, d'où appelez-vous Karine?
Alors j'appelle du Loiret.
Alors quel est votre témoignage?
Alors je m'excuse déjà peut-être un petit peu d'avance si j'ai le ton un peu haché, parce qu'effectivement le matin pour moi c'est compliqué, et là je suis dans une situation atypique, donc voilà. Moi j'ai été diagnostiquée pour la maladie de Cushing en 2019. Ça fait suite à une errance médicale d'une bonne dizaine d'années où en fait j'avais plein de petits symptômes, j'avais de l'hypertension, j'avais de la fatigue qui commençait à s'accumuler, du diabète. Un état un peu dépressif, une peau de plus en plus fine, une morphologie avec le visage rond, une graisse abdominale importante, mais pas de bras, pas de cuisses. Enfin, voilà, plein de petites choses qui s'est accumulées, qui effectivement compliquaient la vie. Mais,
et qui sont liées au taux de cortisol, Karine?
Et en fait, on ne le savait pas au départ, on l'a su en 2019, puisque j'ai eu en même temps en fait, l'arrivée de résultats médicaux qui n'étaient pas bons globalement, sans raison particulière, parce que j'avais vu une nutritionniste. Et puis une fracture de fatigue. et une amie médecin qui m'avait vu l'été, donc avec cette morphologie particulière, et qui là, en fait, a mis le doigt sur la maladie de Cushing. Elle m'a fait faire un test de freinage qui s'est révélé positif, en fait, hein, donc un problème de cortisol, et après j'ai été prise en charge par la conception à Marseille, qui m'a bien accompagnée là-dessus. Mais là, j'ai eu un traitement, en fait, qui était trop fort hein, dans un premier temps, et avec le Covid, hein, on n'a pas pu le détecter tout de suite. Hein, donc là, j'ai eu une hypocortisolémie, en fait, avec là, un épuisement total, des douleurs articulaires. Je pouvais mettre 3-4 fois avant de m'enlever du canapé, en fait, une période très compliquée. Après, le taux s'est bien régulé, et j'ai été opérée, là, il y a un an, pratiquement, de la tumeur sur l'hypophyse, hein, qui est à l'origine de cette maladie. Et là, maintenant, donc, je n'ai plus de sécrétion de cortisol hein, naturelle, donc je prends des médicaments, et le médicament, je le prends le matin, mais il me faut effectivement 1h30, 2h avant de pouvoir être, efficace, de rentrer vraiment dans ma journée. Le matin est compliqué. Hein. Je me réveille avec un état un peu, tout ankylosé de partout, besoin de contracter un peu les muscles pour lancer mon corps en plus des médicaments.
Docteur Moisan, vous consacrez un chapitre hein, à cette maladie de Cushing.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une maladie très, très rare. Hein. Ça touche 4 à 6 millions de personnes par an.
4 à 6 millions.
Non, pardon. 4 à 6 personnes par million d'habitants par an. Excusez-moi, je fais un lapsus.
Donc, 4 à 6 par million d'habitants. Voilà.
Donc c'est très très rare, c'est ça qu'il faut retenir, une maladie très très rare. Donc là, ce que décrit cette personne, c'est la maladie de Cushing, effectivement, avec une tumeur au niveau d'une petite glande qui est à la base du cerveau et qui envoie un messager chimique
l'hypophyse.
Pour l'hypophyse, pour stimuler le cortisol des surrénales. Donc c'est ce Cushing, ACTH dépendant.
ACTH, ça veut dire quoi ?
Ben, ACTH, c'est-à-dire que, vous savez, le système hormonal, il est assez complexe, et les organes qui fabriquent les hormones communiquent entre eux. Et donc, pour ce qui est du cortisol, vous avez au niveau de l'hypophyse, donc un petit organe dans le cerveau, qui fabrique ACTH, c'est un acronyme pour dire une hormone qui vient de l'hypophyse, qui va stimuler, qui va donner l'ordre à la surrénale, donc petite glande qui se trouve au-dessus des reins, de fabriquer le cortisol. Donc si votre hypophyse se met à fabriquer trop d'ACTH, ça va donner l'ordre à la surrénale de fabriquer trop de cortisol. Donc dans ce cas-là, l'excès de cortisol n'est pas lié à la surrénale, mais lié à l'hypophyse. Donc vous soignez l'hypophyse, vous enlevez la petite tumeur qui fabrique cet ACTH, et avec ça, il n'y a plus d'excès de cortisol.
Merci beaucoup Karine de nous avoir rappelé. Tiens, je m'adresse à la professeure Isnar Guagnis. Est-ce qu'il y a un lien entre le rein, vous êtes néphrologue, hein, et les surrénales ? Est-ce que le fait de bien prendre soin de ses reins a un impact sur les surrénales et la production de cortisol ?
Oui, il y en a certainement beaucoup dans le sang. D'abord, ce sont deux organes qui sont voisins, puisque les surrénales sont posées sur les reins. On vient de dire qu'il peut y avoir de l'hypertension artérielle dans certaines situations de déséquilibre du cortisol, qui sont des maladies qui sont entre autres prises en charge par les néphrologues, les cardiologues et tous les médecins, mais pour lesquels, effectivement, on est rarement confronté à des maladies endocriniennes comme le Cushing, mais donc il y a plein de liens entre les deux, bien sûr.
Alors, on le verra dans quelques instants, le cortisol est essentiel au développement et au fonctionnement du corps humain tout au long de la vie. On se retrouve juste après avoir écouté Chico Buarque qui interprète « Ok, c'est là », une chanson sortie en 1976, 10h24 sur Inter.
O que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que andam nas cabeças, andam nas bocas? Que andam acendendo velas nos becos? Que estão falando alto pelos botecos? E gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes? Que cantam os poetas mais delirantes? Que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados? Está na fantasia dos infelizes? Está no dia a dia das meretrizes?
do plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestir, e todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, que não tem juízo.
Chico Buarque a interprété O que sera.
France Inter.
Donnez-moi l'échelle.
Marie.
Donne-moi l'échelle, putain de merde.
Calme.
Grand bien vous fasse.
Oh, hé hey.
Ah, ouais,
oh,
rigole.
Oh, j'ai les vacances.
Vas-y, prends des photos, rigole. Tu vas voir quand j'ai remonté à bord. Je vais te défoncer la gueule.
Ali Rebi.
Des personnages dans les petits mouchoirs qui ont peut-être un taux de cortisol très élevé. Ce matin, dans Grand Main vous fasse, faut-il vraiment diaboliser le cortisol, l'hormone du stress dans le grand public? Pour en parler, la neuro-endocrinologue Marie-Pierre Moisan, l'endocrinologue Boris Ancel et la néphrologue Corinne Isner-Bagnis, grande spécialiste de la gestion du stress et de la méditation de pleine conscience. On en parlera en fin d'émission. Alors, beaucoup de questions sur les effets d'un taux élevé de cortisol dans l'organisme. À quelle pathologie s'expose-t-on, nous demande Malika, professeur Boris Ancel.
Je crois qu'il faut être très clair. L'excès de cortisol, faut d'abord savoir, est-ce qu'il y a une cause? C'est-à-dire que soit on a un excès de cortisol, on a une maladie, c'est-à-dire une maladie qui fait qu'on fabrique trop de cortisol. Dans ce cas-là, on traite cette maladie, qui est généralement une tumeur, soit au niveau de l'hypophyse, on l'a vu avec l'auditrice tout à l'heure, soit au niveau de la surrénale. On traite cette tumeur et on guérit. Ou en tout cas, on est en rémission et on va mieux. Soit on n'a pas cette maladie. Dans ce cas, le cortisol, excusez-moi de vous le dire, l'excès de cortisol, ça n'existe pas et ça n'est pas responsable de pathologie. Donc n'essayons pas de rechercher dans le cortisol toutes les raisons de nos symptômes. Je sais que c'est très tentant, mais il y a beaucoup d'autres raisons à être fatigué, à prendre du poids, à avoir de l'acné, à avoir des problèmes de peau, qu'un problème de cortisol.
Docteur Moisan.
Oui, le cortisol est plutôt votre allié que votre ennemi. Ça, c'est quand même quelque chose dont il faut se souvenir. Et surtout, il s'autorégule. Donc, évidemment, il s'élève, comme on l'a dit, après un stress, après des tas de modifications de votre environnement.
Mais le problème, c'est le stress.
Mais il revient à la
c'est
normale.
Pas le cortisol.
Le problème, c'est le stress. Et donc, si on pense qu'on a un taux de cortisol élevé, faut-il encore le démontrer? Parce que souvent, c'est juste des sensations ou des croyances. Et de toute façon, même si tel est le cas, en général, il s'autorégule. Et de toute façon, c'est le stress qu'il faut essayer de résoudre plutôt que le cortisol lui-même, puisque si on n'a pas enlevé la source, ça va revenir.
Professeur Isner-Bagnis.
Oui, c'est bien de mettre le doigt sur le stress et de peut-être éclaircir les choses. Le cortisol, c'est ce que vous dites, et le stress, on le vit tous, le bon, le mauvais. Et une des questions, c'est peut-être certains symptômes dont on peut se plaindre sont liés au stress. puis là, on ouvre la porte à toutes les réflexions autour de comment aller mieux avec du stress, comment vivre mieux une vie stressante, et il y a plein de réponses, bon, dont la méditation de pleine conscience, mais il y en a d'autres, faire du sport, bien dormir, etc., bien manger. Et ça n'a probablement aucun lien avec le cortisol, puisque dans les études sur la méditation de pleine conscience, il y en a certaines qui ont essayé de doser le cortisol salivaire, etc., mais bon, on sait très bien que ça n'a pas vraiment de valeur. Et c'est pas ça qui démontre l'intérêt de ces approches. Finalement.
Alors j'aimerais qu'on s'attarde sur le rôle essentiel du cortisol dans le développement et le fonctionnement du corps humain tout au long de la vie. Et ça commence dans le ventre maternel. Le cortisol participe au développement de l'embryon et du fœtus.
Oui, même il participe à l'implantation de l'embryon dans l'utérus, en stimulant la progestérone, entre autres. Il participe aussi à la fabrication du placenta, donc vraiment, dès le début, le cortisol a son importance, même s'il est très très peu produit pendant la grossesse, et en fin de grossesse, il a un rôle vraiment important pour la maturation des organes, et ce qui est le plus connu, c'est au niveau des poumons, ce qu'on appelle le surfactant pulmonaire, qui donc est un problème qu'on peut rencontrer chez les enfants prématurés, des problèmes de détresse respiratoire.
Et quels sont les risques tout de même d'une trop forte exposition au cortisol pendant la grossesse ?
Alors justement, comme il agit, le cortisol, sur le développement de nombreux organes, dont le cerveau, trop de cortisol pendant la grossesse peut à ce moment-là modifier le cerveau, en particulier l'architecture des neurones, d'une façon qui va être délétère par la suite. Mais de nouveau, c'est dans des situations extrêmes qui n'arrivent quasiment jamais.
Quel est le rôle du cortisol dans la régulation du poids ? Le cortisol qui agit sur les hormones de la faim et de la satiété, la leptine et la gréline. Expliquez-nous un petit peu ce rôle du cortisol dans la régulation du poids et de l'appétit.
Alors déjà, c'est deux choses différentes, mais donc la régulation de l'appétit, c'est vraiment très très complexe. Hein. On voit que ça a mis 20 ans pour qu'on développe des médicaments anti-obésité, donc ça témoigne de cette complexité. Il y a un tas d'hormones, de neurotransmetteurs qui sont en jeu pour cette régulation. Donc le cortisol en fait partie, c'est sûrement pas le plus important. En général, donc le cortisol va plutôt augmenter l'appétit. Par exemple, il s'oppose à la leptine, qui est une hormone de satiété, une hormone qui dit au cerveau « c'est bon, j'ai assez de stock de gras dans le tissu adipeux, c'est plus la peine de refaire les stocks ». Il stimule aussi au niveau du cerveau des neurones qui augmentent l'appétit, des neurones NPY ou AGRP, pour donner des noms savants. Donc voilà, le cortisol en général va plutôt dans le sens d'augmentation de l'appétit, mais dans les situations de stress, on voit aussi une partie des gens non négligeables qui au contraire ont l'appétit coupé. Donc la relation finalement n'est pas si simple.
Et un taux élevé de cortisol implique-t-il une prise de poids ? C'est ce que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux en préparant cette émission, docteur Moisan.
Oui, donc de nouveau, ça dépend des situations. En général, il faut que l'insuline soit élevée en même temps que le cortisol soit élevé pour qu'il y ait un dépôt de graisse qui augmente.
Professeur Ancel, que répondre à celles et ceux qui affirment, sur les réseaux notamment, qu'une prise ou une perte de poids est liée au cortisol ?
Alors l'effet du cortisol sur le poids, il est assez bien connu. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est d'abord une modification de la répartition des graisses qui se passe, c'est-à-dire que vous allez prendre du gras dans la partie haute du corps, au niveau du ventre, au niveau du cou, au niveau du visage, et vous avez plutôt perte de la masse dans la partie basse du corps. Et typiquement, la personne qui a un excès de cortisol va avoir des cuisses minces parce qu'il a perdu du muscle et une accumulation de graisse dans la partie haute du corps. C'est pour ça que dans certains cas, dans certaines formes d'obésité, il faut rechercher un excès de cortisol.
Dans ce cas-là, par exemple.
Absolument, dans ce cas-là. Alors, toutes les personnes qui nous écoutent vont se dire « Oui, j'ai peut-être un excès de cortisol ». Il faut savoir que cette obésité qui est liée à l'excès de cortisol, elle est vraiment typique, avec cette obésité abdominale, avec ce visage qui est rouge, qui est bouffi, avec une fragilité de la peau, des hématomes faciles, c'est-à-dire à peine vous vous cognez, ou même sans vous cogner, vous avez un hématome, des vergetures pourpres, qui sont rouges, qui sont larges, une fragilité de la peau. Tous ces signes-là, quand ils sont présents, doivent faire évoquer une obésité liée à un excès de cortisol. Alors, c'est vrai que
il y a un intérêt à mesurer son taux de cortisol.
Absolument. Alors, nous, médecins, quand on est formés à cela, on le voit tout de suite à l'examen. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont erré, des fois, pendant plusieurs années, voire à qui on a proposé de la chirurgie bariatrique. Ça m'est arrivé de rencontrer un patient qui était sur le point de se faire opérer de son estomac pour perdre du poids. Et en fait, il avait un authentique hypercorticisme, trop de cortisol. Et ça, franchement, ça se voit à l'œil nu. Et quand on le soigne, ça peut être extrêmement efficace. Donc, un simple examen médical suffit à le supposer. Et un bon examen hormonal, et ce n'est pas un simple dosage de cortisol comme ça, il y a des tests particuliers, permet d'éliminer ou au contraire de se dire « bah oui, il y a une maladie du cortisol qui est responsable de l'obésité, au moins en partie ».
Docteur Marie-Pierre Moisan.
Oui, alors de nouveau, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces cas-là, dont parle Dr Hansel, sont extrêmement rares. Alors que sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de vidéos avec la cortisol face, vous voyez une jeune fille avec une tête ronde, une jolie tête d'adolescente, et puis à la photo d'après, elle a plus ses joues et elle dit voilà, c'est mon cortisol que j'ai traité avec telle et telle gélule. Donc ça, c'est typiquement une surinterprétation de ces cas de Cushing qui, de nouveau, faut le rappeler, sont extrêmement rares.
C'est très important de dire que on ne doit pas passer à côté, et ça c'est le rôle du médecin, mais on ne doit pas surdiagnostiquer et, comme vous le dites, se dire que ça y est, j'ai pris du poids, je ne comprends pas, j'ai pris du poids, de la graisse au niveau du visage, j'ai un excès de cortisol. Ça, surtout pas, s'il vous plaît.
Alors, un taux élevé de cortisol impacte l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans l'organisme. Le pancréas qui produit l'insuline peut être perturbé par le cortisol, docteur Moisan, et à terme, cela peut peut-être conduire à une résistance à l'insuline et donc à l'apparition d'un diabète de type 2.
Oui, alors de nouveau, dans des cas extrêmes où le cortisol est sans cesse sollicité pour apporter du glucose dans le sang, en réaction, l'insuline va répondre, et l'insuline, quand elle est trop sollicitée, elle finit par faire ce qu'on appelle une résistance, c'est-à-dire qu'il y a des taux élevés, mais elle ne fonctionne plus. Et en plus, le cortisol agit directement sur les cellules du pancréas. Donc effectivement, dans des situations d'hypercorticisme, on peut avoir des situations de diabète qui vont se développer.
Docteur Marie-Pierre Moisan, de quelle façon le cortisol contribue à une bonne santé cardiaque ? Sans cortisol, le cœur s'épuise et s'abîme.
Oui, alors le cortisol a un rôle dans la fonction cardiaque puisqu'il est important pour les muscles lisses vasculaires, donc qui sont dans les parois des vaisseaux sanguins. Il contribue à la pression artérielle en facilitant la vasoconstriction. Donc c'est dans ce sens-là que le cortisol est important. Et quand il est en excès, on peut avoir effectivement des problèmes de tension trop élevés. Ce qui a été montré très bien, par exemple, chez l'animal, quand on enlève le cortisol en enlevant les surrénales, les animaux vont avoir un cœur hypertrophié. Et en général, c'est le ventricule gauche qui montre des anomalies.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant sur ce sujet de la tension artérielle. Chez les personnes qui ont une hypertension artérielle et en même temps un potassium dans le sang qui est trop bas, cette hypertension avec hypokaliémie, on recherche des causes hormonales et notamment un excès de fabrication de cortisol. Et encore une fois, on a vraiment des éléments cliniques et biologiques qui nous permettent de suspecter cela. On ne va pas suspecter un problème de cortisol chez toutes les personnes qui ont de l'hypertension.
Professeur Corinne Isnarmanis, est-ce qu'il y a des liens entre un taux élevé ou trop bas de cortisol et la santé du rein ? Qu'est-ce que... Vous êtes néphrologue, je le rappelle.
Bah, via les... Enfin, ça... Évidemment, c'est possible, mais surtout via les conséquences de ces maladies, quand il y en a. Donc, du coup, via l'hypertension artérielle. L'hypertension, c'est une des premières causes de perte de fonction rénale en France aujourd'hui et dans le monde.
Et nous accueillons Marlène. Bonjour Marlène.
Oui, bonjour.
Vous appelez d'où Marlène ?
De Toulon.
Alors, quel est votre témoignage ?
Donc, j'ai eu un trauma, en fait, dans l'enfance, l'inceste. J'ai fait une anorexie grave où j'avais frôlé la mort. Et aujourd'hui, donc, j'ai beaucoup de problèmes de santé. Et on m'avait fait le dosage, je suis donc quelqu'un de très stressé, et on m'avait fait le dosage du cortisol. Mais on m'avait fait un dosage et par analyse de sang et par analyse d'urine. Et en fait, les résultats étaient différents. Donc, je me demandais pourquoi. Donc, je dépassais le taux de cortisol, je dépassais le max dans les analyses d'urine, je crois, et pas dans les analyses de sang. Et en fait, aussi, je voulais savoir si un trauma pouvait avoir une incidence qui perdure sur le taux de cortisol. Et est-ce que la stimulation du nerf vague par des... Il y a des appareils électriques que l'on vend de stimulateurs du nerf vague qui permettrait de diminuer ce taux de cortisol.
Professeur Ancel, sur la première partie de la question.
Alors, d'abord, le cas de Marlène est important parce que l'anorexie peut provoquer des problèmes hormonaux. Et je pense que c'est important d'en dire un mot juste après. Pour ce qui est des dosages, non, on n'interprète pas un dosage dans le sang à la limite de la normale ou légèrement au-dessus de la normale. Parce que comme on l'a dit, le cortisol fluctue et donc ça n'a pas de valeur diagnostique. Et on ne fait pas de dosage urinaire du cortisol. Excusez-moi de vous le dire, mais ça, ce sont des déviations de la médecine. Je sais bien que c'est la mode aujourd'hui de proposer des solutions alternatives, des dosages dans tous les sens. Ça ne devrait pas être fait dans cette situation en particulier.
Docteur Moisan ?
Alors moi je vois un intérêt quand même du dosage dans les urines puisque ça reflète la production totale, c'est les dosages sur 24 heures. Donc ça permet de voir s'il y a une production totale qui est élevée ou pas.
Je parlais dans cette situation particulière où il n'y avait pas de suspicion d'hypercorticisme. Bien sûr, sinon le dosage urinaire fait partie des tests quand on suspecte un hypercorticisme.
On est d'accord, alors. Donc, c'est intéressant, et effectivement, où on se rejoint tout à fait, c'est que ce dosage urinaire, dans ce cas-là, veut sûrement dire quelque chose de plus intéressant que le dosage qui a été fait dans le sang.
Et sur le trauma évoqué par Marlène.
Oui, donc, effectivement, le trauma va laisser des traces dans le corps et va impacter l'axe hormonal qui produit le cortisol. Ça, c'est des choses qui sont très, très connues. Et effectivement, donc... des anomalies de cet axe corticotrope produisant le cortisol peuvent perdurer suite à des traumas. Ceci dit, ce n'est pas non plus complètement irréversible, donc il ne faut pas être fataliste non plus par rapport à ça.
Ce qui est très important, quand on a une suspicion face à un dosage qui a été fait, même si parfois il n'aurait pas dû être fait, c'est d'aller au bout du diagnostic. Le dosage urinaire sur 24 heures est un test de ce qu'on appelle un test de dépistage. Il ne permet pas de confirmer le diagnostic. Et donc ensuite, on a des tests, vous l'avez mentionné tout à l'heure, des tests de freinage, où on va essayer de freiner la production de cortisol en donnant justement des corticoïdes qui sont censés, par des mécanismes d'endocrinologie, freiner la production de cortisol. Et quand ce freinage ne marche pas, c'est-à-dire que l'organisme continue à fabriquer trop de cortisol, là on peut dire qu'il y a un diagnostic. Mais c'est très important de dire à Marlène qu'il faut aller au bout de la démarche si on a une suspicion.
Merci beaucoup Marlène de nous avoir appelé. Dans quelques instants, on vient à cette appellation d'hormone du stress concernant le cortisol. On se retrouve juste après avoir écouté Mira et Ichon qui interprètent Pièce manquante, 10h44 sur Inter.
C'est depuis que je suis enfant que j'ai guise mon plan. En plaisantant, je disais quand je serai grand, je le suis maintenant. Le présent, je dois le vivre. Ça fait longtemps que je crie, mais le plus important, c'est quand je chante. Maintenant, j'écris. Le puzzle s'assemble, pièce manquante.
J'ai cherché tout autour du monde, j'ai fait tous les mauvais endroits. Eux qui ne flattaient que mon nom. Le soleil était en moi. J'ai cherché tout autour du monde, j'ai fait tous les mauvais endroits. Qui ne flattait que mon nom.
mes échecs signés sur le chèque. La fille devient sexy, baby shake comme ça.
Interpréter pièces manquantes.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, faut-il vraiment diaboliser le cortisol, l'hormone du stress dans le grand public ? Pour en parler, la neuro-endocrinologue Marie-Pierre Moisan, l'endocrinologue Boris Ancel et la néphrologue Corinne Isnard-Bagnis, grande spécialiste de la gestion du stress et de la méditation de pleine conscience. Alors, Marie-Pierre Moisan, vous publiez, à mon sens, le meilleur livre actuellement en librairie sur le cortisol. Mais est-ce vraiment le cortisol ? Et vous examinez les fausses promesses des réseaux sociaux à la lumière de la science. Faut-il par exemple faire baisser son taux de cortisol pour combattre le stress chronique ?
Alors absolument pas. Comme on l'a dit à plusieurs reprises dans ces missions, le cortisol va être la conséquence éventuellement d'un stress chronique, mais pas la cause. Donc si vous tentez de faire baisser votre taux de cortisol, ce qui déjà n'est pas forcément évident, vous n'allez pas résoudre la source du problème qui est le stress. Donc c'est bien le stress qu'il faut combattre et pas le cortisol.
Corinne Isnard-Bagnis.
Il y a plein de manières de combattre le stress.
Mais c'est quoi d'abord le stress ? On parle de stress aigu, de stress chronique en la matière.
C'est une notion en fait qu'on n'a pas toujours identifiée. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des événements qui peuvent être des déclencheurs.
Des stresseurs.
Ensuite, des stresseurs qui peuvent être alors là, très divers, évidemment. Puis ça déclenche une cascade extrêmement complexe, puisqu'on en parle avec le cortisol, mais c'est beaucoup plus complexe que seulement le cortisol.
Il y a l'adrénaline également.
Il y a plein d'hormones, il y a plein d'une réactivité du corps. Et en fait, l'idée aujourd'hui qu'on se fait du stress, c'est plutôt de parler du stress chronique. C'est-à-dire que c'est ça qui est lié à peut-être une altération de la qualité de vie avec un certain nombre de symptômes.
Il faut peut-être préciser que la réponse au stress est un processus positif nécessaire à la survie.
Tout à fait. Voilà. Sauf si on est stressé tous les jours, tous les jours. À ce moment-là, il faut se poser la question de savoir quels sont les stresseurs, bien entendu, mais ce n'est pas le sujet peut-être de l'émission d'aujourd'hui. Et puis réfléchir à certaines approches qui peuvent nous permettre de vivre mieux avec des situations de stress. Et bien entendu, il y a beaucoup de réponses à ça qui sont vraiment centrées sur des changements de comportement dans notre quotidien. Prendre du temps pour soi, bien dormir, bien manger, faire du sport, respirer. La sylvothérapie, par exemple, il y a des gens qui maintenant amènent cette idée que être en contact avec la nature, ça nous fait du bien. Il y a un certain nombre d'études qui peuvent soutenir ces idées-là. Et puis la méditation de pleine conscience, moi, c'est ce que je connais, ce que je pratique et ce que j'enseigne. Et c'est aussi un des éléments qui nous permet d'intervenir. Alors, tout à la fin du stress, c'est-à-dire dans la manière dont on y réagit, et de nous permettre de mieux vivre et de mieux accepter, accueillir des situations stressantes.
Ce que vous rappelez dans votre livre, Dr Moisan, c'est que ce n'est pas le cortisol le problème. Ce n'est pas le cortisol qu'il faut absolument faire baisser. Il faut prendre les choses de façon inverse. C'est le stress et les stresseurs qu'il faut identifier et combattre quand on est victime, quand on est sujet à un stress chronique.
Oui, je rajouterais même que ça peut être dangereux d'essayer de faire baisser son cortisol, puisque comme on l'a dit, il est indispensable au fonctionnement du corps. Et des situations de stress ne sont pas toujours associées à un excès de cortisol. Ça peut être aussi des fois une baisse de cortisol ou une baisse de fonctionnement du cortisol, une résistance au cortisol. Donc c'est assez absurde de vouloir systématiquement contrôler son cortisol en situation de stress, alors qu'on ne sait même pas s'il est trop élevé. Et dans certains cas, il peut être plus bas. Donc on va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Et de toute façon, effectivement...
Mais je le redis, et c'est tout l'objet de votre livre, c'est sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, pour préparer cette émission, je suis allé sur des tas de comptes d'influenceurs, de naturopathes, de coachs en cortisol. Et c'est vrai que l'obsession, c'est de faire baisser ce taux de cortisol. Ça devient même obsessionnel, Boris Ancel.
Oui, et alors non seulement c'est absurde, mais ça peut être dangereux parfois, les techniques proposées. Il y a un exemple, c'est l'ashwagandha. Alors l'ashwagandha...
Vous le défendez dans votre livre.
Alors, pas vraiment.
L'ashwagandha a des effets
anti-stress.
Le problème, c'est que l'ANSES...
C'est une plante.
Le problème, c'est que l'ANSES a justement fait une évaluation publiée en 2024 et alerte sur le risque. Il y a eu 8 cas de conséquences graves liées à la consommation de l'ashwagandha sous forme de complément alimentaire. Et les experts se demandent même s'il ne faut pas interdire les formulations à base de thé. Parce que c'est un produit efficace. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace, sauf qu'il est mal évalué et qu'on se pose vraiment la question. Donc non seulement il est déconseillé chez les personnes fragiles, mais chez les personnes en bonne santé, on ne sait pas ce que ça fait. En revanche, des techniques pour agir sur le stress,
par exemple,
il y en a.
La méditation voilà. De pleine conscience, professeur Corinne Isnard-Bagnis, pourquoi l'éminente néphrologue que vous êtes s'est-elle intéressée à la méditation de pleine conscience?
Très rapidement, parce que je travaille dans un milieu particulièrement stressant et que j'ai eu de l'intérêt à la fois pour mes patients. Les maladies chroniques sont aussi des événements stressants au quotidien. Donc d'abord, mon idée, c'était plutôt de faire découvrir ces approches dans une perspective d'améliorer la vie avec une maladie chronique.
Petite précision à propos de la méditation de pleine conscience, c'est le professeur de médecine américain Jon Kabat-Zinn qui a popularisé et laïcisé cette pratique très ancienne dans de nombreuses religions et traditions spirituelles.
Tout à fait, c'est le fait qu'on puisse pratiquer la méditation comme un entraînement attentionnel, un certain nombre d'exercices très simples finalement, qui permet qu'on puisse le proposer dans des lieux de soins, parce que c'est parfaitement laïque. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans maintenant, j'enseigne surtout à des professionnels de santé de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes en bénéficier et le partager avec leurs patients. C'est une des façons de mieux vivre le stress au quotidien, si on veut résumer.
Et rappelez-nous ce qu'est la méditation de pleine conscience et de quelle façon est-elle utilisée dans la gestion du stress ?
Alors, en deux mots, la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose que tout le monde sait faire. Chaque être humain est capable de porter son attention sur ses sensations. Et simplement, dans la méditation de pleine conscience, on se propose de prendre du temps pour faire des exercices, et même des exercices très simples, faits à la maison pendant 10 minutes par jour, ont montré qu'ils pouvaient avoir un impact favorable sur ce qu'on appelle le stress perçu, c'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille sur des techniques de diminution du stress, comme la méditation, on ne va pas mesurer le cortisol, ce qui n'a pas de sens, évidemment, mes collègues l'ont dit, mais on mesure avec des échelles, finalement, de quelle manière on perçoit qu'on est stressé. Et ça suffit à montrer que 10 minutes par jour à vraiment se concentrer sur son corps et ses sensations corporelles avec un exercice, par exemple, qui s'appelle le body scan ou balayage corporel.
Expliquez-nous.
Il n'y a pas de balai dans le balayage corporel. C'est juste qu'on va utiliser notre attention. On va fermer les yeux et puis simplement aller faire un espèce de scanner. Ça peut parler. Visualiser l'ensemble de son corps, c'est-à-dire ressentir en fait, se reconnecter à ses sensations. C'est une capacité qu'on a naturellement dans le corps, de sentir sans le voir ce qui se passe en termes de sensations physiques dans le corps. Et cette connexion en fait amène une détente et de la relaxation. Et en tout cas, sur le long terme, quand on pratique ces exercices, on a plein d'études, et maintenant même des études qui cochent les cases de ce qu'on attend dans la médecine, ce qu'on appelle des essais randomisés, c'est-à-dire on a tiré au sort des gens, on a comparé versus un groupe contrôle, etc. Et on voit qu'on a un meilleur vécu de ces sensations, ce qui finalement est important.
Et nous accueillons Isabelle, pardon. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous Isabelle ?
De Paris.
Alors, quel est votre témoignage ?
Alors, j'ai depuis plusieurs mois un problème à un œil, une vision floue au milieu de l'œil. Et l'ophtalmologiste m'a dit que c'était une rétinopathie séreuse centrale et que c'était lié au stress et au cortisol. Alors j'ai bien compris que les deux sont liés. Et donc elle m'a conseillé de faire du yoga ou de la méditation, ce qui rejoint un peu ce que vous disiez sur le plateau. Je voulais savoir ce qu'en pensent aux spécialistes.
Alors on ne fera pas de diagnostic sur cette rétinopathie séreuse centrale. Je ne sais pas si c'est lié au cortisol ou pas.
Je crois qu'avec ce qu'on a dit, on peut vraiment bien expliquer à notre auditrice. Être lié au stress et être lié au cortisol, ce sont deux choses différentes. Donc s'il vous a dit que c'est lié au stress, il vous propose de faire du yoga ou des techniques de relaxation, eh bien on peut suivre l'avis de votre médecin. En revanche, ne tombez pas dans cette idée, je sais qu'avec les réseaux sociaux, on est tenté de se dire je vais baisser mon cortisol et le doser pour améliorer ma pathologie. Donc oui, agissez sur le stress. Sur le stress, c'est ce que votre médecin vous a dit, on a parlé de la méditation, il y a des thérapies cognitives et comportementales, il y a plein de traitements non médicamenteux qui aident à cela, on n'est pas en train de dire qu'il faut prendre plein de médicaments. Utilisez les méthodes qui ont été évaluées, démontrées, et vous irez mieux.
Professeur Corinne Isnard-Bagnis, peut-être quand on a vécu une journée très stressante, peut-être un exercice, et merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé, un exercice qu'on peut faire tous les jours, simple à faire, et qui, sur la durée, au bout de, je ne sais pas, d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, peut produire des effets mesurables.
Tout à fait, oui, il y a plein d'exercices, et parmi toutes les manières de pratiquer la méditation.
Moi, j'aime marcher, par exemple, en méditant.
Marcher, la marche méditative, que soit on pratique ça chez soi, et à ce moment-là, on fait juste quelques pas dans son salon, là. Mais ça nous ramène, le centre de cet exercice, c'est vraiment de s'intéresser à nos ressentis dans le corps. Puis après, on peut aussi choisir de faire de la marche méditative à l'extérieur, et là, on va combiner finalement une attention portée à nos sensations, ce qui est un exercice de méditation, à un environnement peut-être aussi favorable à la détente, comme le fait d'être dans la nature et d'être dehors.
Mais pas grave si son esprit divague, par exemple, je m'attarde à mes sensations, à ce que je suis en train de vivre, et que mon esprit divague, le plus important, c'est de s'en rendre compte et de faire revenir tranquillement son attention.
C'est juste normal. C'est normal, ce qu'on appelle l'esprit qui divague, c'est que notre attention, on ne peut pas la prendre et la coller quelque part. Elle est mobile, elle s'intéresse à plein de choses, notre attention, et donc l'esprit va partir ailleurs, effectivement. Quand on fait la méditation, on s'entraîne à revenir à l'objectif de notre exercice. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'on est parti dans je prépare ma prochaine émission de demain matin, quand bien vous fasse, on va ramener son attention à l'exercice qu'on était en train de faire. En fait, c'est ça, méditer. C'est domestiquer notre attention, si on peut dire.
Et nous consacrerons bientôt avec vous, Corinne Isnard-Bagnis, et avec le professeur Steven Lorès, une émission consacrée à la méditation de pleine conscience avec les dernières avancées scientifiques. Merci beaucoup, docteur Moisan. Je recommande vraiment votre livre « Mais est-ce vraiment le cortisol ?» publié chez Viber. C'est le meilleur livre sur le cortisol actuellement en vente en librairie. Professeur Boris Ancel. Et ça sort le 26 mars. Merci pour la précision. Professeur Boris Ancel, on peut s'abonner gratuitement à votre chaîne YouTube PUMS pour une meilleure santé, 100% anti-fake news, ce soir.
Alors ce soir, un live donc en direct, on parlera du côlon, comment préserver votre côlon. Et là, en ligne, à la une, si vous intéressez aux hormones, vous avez une émission entière sur les hormones avec des informations et des conseils pratiques sur PUMS sur YouTube. P-U-M-S.
Merci, c'est noté. Une émission à podcaster, à partager sur les réseaux sociaux depuis l'appli Radio France et les plateformes de streaming. Tous les extraits de Grand Bien Vous Fasse sont à retrouver sur les réseaux sociaux de France Inter et sur mon compte Instagram. Et vous allez retrouver dans quelques instants Nagui et la bande originale qui reçoivent Gilles Lellouche et Laetitia Casta.